je vous propose une lecture dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33, Deutéronome 33. Nous lirons le verset 1er, et ensuite nous irons au verset 20. Deutéronome 33, verset 1er. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Et le verset 20, c'est donc une bénédiction sur la tribu de Gad. Sur Gad, il dit: béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Amen. Voilà donc, Moïse arrive à la fin, il a conduit le peuple de Dieu pendant 40 ans dans le désert. Dieu a conduit Moïse et Moïse a conduit le peuple, ce peuple qui a été béni à main forte, à bras étendus, et Moïse a réussi l'œuvre que l'Éternel lui avait donnée. Il est allé jusqu'au bout et à partir de ce moment-là, eh bien, Josué prendra la suite. Donc le livre du Deutéronome, c'est un rappel de la loi. Dieu a donné sur le mont Horeb la loi à Moïse, donc dans le livre de l'Exode, et dans le livre du Deutéronome, Dieu a jugé juste de rappeler la loi et d'y ajouter bien sûr d'autres paroles, mais de rappeler. Combien nous avons besoin que Dieu nous rappelle sa parole? Nous sommes quand même oublieux, on lit, on relit, on médite, et combien nous avons besoin que le Saint-Esprit applique cette parole à notre cœur. Et l'apôtre Paul disait: je ne me lasse pas de rappeler les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Et il est bon de toujours rappeler la parole de Dieu, de toujours, eh bien, proclamer cette parole qui est là, non pour nous condamner, mais pour nous bénir. Alors ces versets que nous avons lus, Moïse, homme de Dieu, c'est vrai qu'il n'a pas été un homme parfait, comme tous les hommes de Dieu dans la parole, comme David et d'autres, mais Moïse a marché par la foi. La Bible nous dit qu'il voyait celui qui était invisible, c'est-à-dire Dieu. Et il a, homme de Dieu, est-il ajouté. Alors ce que je voulais aussi préciser, c'est tout ce que Dieu a consigné dans sa parole, tous les noms, pour certains les prénoms, Dieu a jugé bon de les inscrire dans sa parole. Et c'est un fait étonnant quand même, certains sont des personnages qui n'ont pas fait grand-chose, qui passeraient presque inaperçus, et pourtant leur nom a été consigné par le Saint-Esprit dans l'Écriture. Nous bénissons Dieu parce que notre nom n'est pas marqué dans la parole de Dieu, mais il est marqué dans le livre de vie. Et ça, c'est intéressant que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Alors, Moïse arrive sur le mont Nebo, dans les plaines de Moab, et là, il va prononcer la bénédiction. C'est beau quand un homme finit sa course et il prononce des bénédictions de la part de Dieu. Il a encore quelque chose à dire, il a encore quelque chose à enseigner, quelque chose à communiquer de la part de Dieu alors qu'il arrive à la fin de sa vie. Et c'est beau de voir cela, ce Moïse qui communique encore la parole du Seigneur. Les quelques versets que nous avons lus font partie des bénédictions prononcées par Moïse pour chaque tribu qui composait le peuple de Dieu. Ce sont les dernières paroles qu'il prononcera. Mais pour nous, ces paroles que nous avons lues, il y a quand même un enseignement qui est parfois voilé, parfois caché, mais nous avons besoin, par la grâce de Dieu, avec le secours du Saint-Esprit, que cette parole, elle puisse trouver un écho favorable dans notre cœur. La parole de Dieu, elle est à la fois pour aujourd'hui et elle est toujours prophétique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu s'adresse à nous ce soir, mais il y a toujours une parole prophétique. Quand Jésus a parlé, eh bien, il y avait ces paroles qui étaient adressées à la foule, qui étaient adressées aux disciples, qui étaient adressées aux apôtres, mais il y avait toujours une portée prophétique. Et c'est une parole vivante. C'est pas aujourd'hui, voilà, c'est terminé, la parole est accomplie, terminée. Non, la parole s'accomplit ce soir dans nos cœurs, mais elle est aussi prophétique, c'est-à-dire pour les temps à venir. Et là, la bénédiction que Moïse prononce, elle est prophétique pour ces tribus, pour ce peuple d'Israël. Cet épisode se situe, comme je l'ai dit, dans les plaines de Moab, et le peuple vient de passer 40 ans dans le désert, 40 ans où Dieu les a pourvus à tous leurs besoins, et 40 ans où Dieu a essayé d'atteindre leur cœur. Et il n'y est pas arrivé. Dieu a essayé d'atteindre leur cœur afin de pouvoir les bénir. Il les a bénis, mais la Bible nous dit que le peuple avait un cou raide et ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Donc là, ils sortent du désert, pardon, mais le désert est encore dans leur cœur et nous voyons la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Ils sont là prêts à entrer dans le pays de Canaan et Dieu parle de bénédiction pour ce peuple. C'est beau la grâce de Dieu. Heureusement que nous avons la grâce de Dieu. Heureusement que Dieu ne nous condamne pas et ne se souvient pas de nos iniquités. Heureusement, quand nous les confessons, eh bien Dieu nous pardonne et il efface heureusement. Sinon, qui pourrait subsister ? Heureusement qu'il y a la grâce de notre Dieu. Alors pour nous ce soir, souvenons-nous que nous avons plus que Josué, nous avons plus que Canaan, nous avons Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, qui revient bientôt chercher son peuple, pour nous faire entrer non pas en Canaan, mais pour nous faire entrer dans son ciel. Quelle grâce ! Jésus revient bientôt. Alors Moïse a prophétisé sur chaque tribu d'Israël. Et il a prophétisé une bénédiction particulière à chaque tribu. Ce n'est pas une bénédiction en bloc, mais une bénédiction particulière. Et dans le Nouveau Testament, nous avons aussi, sous l'impulsion de Jésus, Jésus est bien béni, mais pas d'une manière globale. Par exemple, dans les églises de l'Apocalypse, Jésus se présente à chaque église d'une manière complètement différente, qui correspond à ce dont ils avaient besoin, qui correspond à l'identité de l'Église, qui correspond à leurs problèmes. Jésus se présente pour les uns comme l'épée à deux tranchants, pour d'autres comme l'étoile du matin, pour d'autres encore comme le berger, etc. Il se présente à ces églises selon ce dont ils ont besoin, la révélation dont ils ont besoin. Nous avons un Dieu extraordinaire. Nous avons un Jésus merveilleux, celui qui est vraiment précis dans sa bénédiction. Et pour chacun d'entre nous, le Seigneur nous connaît par notre nom. Il connaît la profondeur de nos cœurs, il connaît nos besoins, nos problèmes. Et il a une réponse pour chacun de nous d'une manière spécifique. Dans l'évangile selon Jean, Jésus est le bon berger, il est la vérité, le chemin, la vie, le cep. Il se présente comme cela et peut-être ce soir quelqu'un a besoin d'être consolé, encouragé. Jésus est le bon berger. Quelqu'un a besoin d'un rappel, de se rester attaché en communion avec lui. Il est le vrai cep et son père est le vigneron. Nous avons un sauveur extraordinaire. Il veut une relation personnelle. Dans la parole, il dit « Je te connais par ton nom ». Alors il prononce sur Gad, une tribu qui a connu des moments difficiles, mais c'est là la fin du désert. Alors la signification de Gad, c'est « bonheur, heureux ». C'est le septième fils de Jacob. Alors Gad, bonheur, heureux. C'est beau de s'appeler bonheur. Mais non seulement le nom a été prononcé, a été choisi pour Gad, pour la tribu de Gad, mais il y a aussi une situation qui correspond à ce nom. Ce bonheur dépendra de la capacité spirituelle que Gad aura de vivre au centre de la volonté de Dieu. Ça dépendra de cela. il y a une relation étroite entre la parole de Dieu et le bonheur. Par exemple, dans Ésaïe au chapitre 48 et au verset 17, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Jésus prononce aussi des paroles de bénédiction dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu au chapitre 5, et il y a tous les heureux, et comme je l'avais déjà précisé ici, à la place de heureux, on peut mettre béni. Béni ceux qui ont le cœur pur, etc. Heureux ceux qui ont le cœur pur, etc. Donc, ça dépend aussi de la relation que nous avons avec la parole. Et ça, c'est indépendant des circonstances. C'est surtout par rapport au choix que nous faisons. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Que ferait Jésus à ma place ? Et au travers des difficultés, eh bien, nous pouvons vivre une paix surnaturelle, un repos surnaturel, et même une joie surnaturelle au travers de toutes les difficultés. La première bénédiction qui est descendue sur Gad, sa première est celle-ci, nous l'avons lue ensemble, alors, je retrouve là, sur Gad, « Béni soit celui qui met Gad au large. Ils sont sortis du désert, des difficultés, des tentations, de la rébellion, et physiquement, ils étaient sortis, mais leur tête était encore et leur cœur était encore dans le désert. Mais Dieu dit qu'il les bénit et qu'il les met au large. Il élargit l'espace, il l'éloigne de cet enfermement. Que Dieu soit béni pour le large dans lequel il nous met. Nous avons parfois, eh bien, nous sommes comme dans une prison, comme enfermés dans des difficultés, et il peut nous mettre, et il veut nous mettre au large. Dieu veut me mettre, te mettre au large, comme Gad qui est sorti de ses limites, de ses restrictions, de ses circonstances, de son monde autour de lui. Il est sorti de là pour être au large et entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Gad est comparé aussi dans la bénédiction, il est comparé à une lionne. Il repose comme une lionne dans sa demeure ou dans sa tanière. Il repose. Le lion rugit. Le lion marque son territoire. Le lion veut faire peur à ceux qui sont là. Mais la lionne, elle a d'autres préoccupations, c'est-à-dire d'amener la nourriture au lionceau. Elle, c'est sa tanière, elle est là et elle sort vraiment si les lionceaux sont en danger. Mais par rapport au lion, elle ramène la nourriture pour les lionceaux. Le lion défend le territoire, mais la lionne nourrit ses petits. L'Église n'est pas appelée à faire du bruit comme le lion, à rugir, mais à demeurer dans la paix, dans le repos, dans la communion avec Christ, comme cette lionne dans sa tanière, et sortir au moment opportun. Au moment opportun, pourquoi ? Pour apporter le témoignage, pour apporter la lumière dans les ténèbres, sortir par la grâce de Dieu. Nous sommes là dans l'Église et nous voulons demeurer dans sa paix. Dans cette même bénédiction, il est dit qu'il déchire le bras et la tête. Gad comme une lionne sait exactement où frapper les ennemis. Elle sait où frapper ceux qui créent un danger. Elle sait exactement le bras et la tête. Coupe donc toute force à l'ennemi, toute possibilité d'agir. Nous avons dans la parole de Dieu, dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, où il nous est dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Ses desseins, défaire les desseins de l'ennemi, ce qu'il a tramé dans son esprit, les défaire. Nous savons, Jésus a frappé le diable à la tête. Dans le désert de la tentation, Jésus a frappé par trois fois le diable à la tête. Et le diable a été désarmé. Il a été obligé de battre en retraite. La Bible nous dit « cherchant un moment plus favorable ». Jésus a frappé là où le diable a été désarmé, là où le diable il a frappé le point névralgique. Le diable est arrivé avec la parole et Jésus, avec cette même parole, a désarmé le diable. Dans l'Église, sait qui combattre et quoi combattre. Dans Éphésiens au chapitre 6, nous l'avons médité à partir du verset 10 où il est dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme et surmonter, etc. » Donc, nous n'avons pas à lutter. Nous avons à lutter contre ces dominations et nous savons que Christ les a vaincus à la croix. Prenons ces armes de Dieu en sachant comment combattre, où frapper pour neutraliser, pour anéantir toute force de l'ennemi. Nous ne le pouvons pas par rapport à nos propres forces, mais nous le pouvons par Christ qui agit en nous. Au verset 21, il est dit « Il a choisi les prémices du pays ». Quelle bénédiction que Moïse va prononcer sur Gad. Il a choisi les prémices. Vous savez, tout ce que Dieu donne est bon. Tout. Mais les prémices, c'est du très bon. Il y a le meilleur. Dans Ésaïe, au chapitre 1er, verset 19, il est dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures. Nous devons recevoir tout ce qui vient de Dieu. Bien sûr, tout ce que Dieu veut nous donner est bon dans sa présence, dans la méditation de sa parole. Et par la foi, nous voulons recevoir tout ce qui vient de Dieu pour nous. Nous en avons besoin, il nous le communique. Mais Paul dira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2, « Ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voyez, il y a le bon. Et il y a ce que nous pouvons et nous devons recevoir au fur et à mesure que nous avançons. Il y a aussi le meilleur qui vient de Dieu. Il a marché aussi dans la même prophétie, dans la même bénédiction, il a marché en tête du peuple. Prions pour recevoir ce qui est nécessaire et indispensable à notre vie spirituelle, pour aller de l'avant, pour gagner du terrain, pour remporter des victoires, faire des expériences, pour marcher en tête. Dans Deutéronome 28 et verset 13, Dieu dira « L'Éternel fait de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. » Amen. Celui qui conduit, tu seras... Il a marché en tête du peuple. Donc au verset 21, il a marché en tête du peuple. Celui qui conduit, celui qui ouvre la voie, celui qui va au combat, celui qui ne dit pas « allez-y, mais suivez-moi ». Et Gad était comme cela, la bénédiction pour lui, la prophétie sur Gad était « tu seras en tête, tu marcheras, tu seras vainqueur, tu iras de progrès en progrès ». Si tu es attentif au commandement pour conduire, nous avons besoin aussi pour conduire des âmes à Christ. Nous voulons les conduire. Humainement, nous sommes faibles. Mais la Bible dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, par Christ. Nous pouvons tout par Christ. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons entrer dans cette victoire de Christ. Nous voulons entrer dans la voie qu'il nous a tracée. Nous voulons recevoir de lui. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin et qui est efficace vient de Dieu. Tout ce qui est béni vient de Dieu. Et nous avons besoin de le recevoir par la foi. Jésus nous a dit, et l'Épître aux Éphésiens nous dit, au chapitre 1er et verset 3, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions. Et bien que par la foi, ces bénédictions que nous avons reçues en Christ, dans le ciel, Christ qui est à la droite de Dieu, elles puissent descendre dans notre cœur par la foi. Nous en avons besoin. Et dans les situations les plus difficiles, et bien Dieu a la mesure qu'il nous faut pour tenir ferme, pour relever la tête et pour avancer. Dieu nous l'a déjà acquis en Christ. Dans 1 Corinthiens au chapitre 16 et verset 13, l'apôtre Paul dira « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que Dieu nous aide pour nous fortifier en lui. La force qui vient de Christ, elle est extraordinaire, peut nous permettre de traverser les déserts, elle peut nous permettre de traverser. Lui, il a prévu pour nous. Il sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous sommes faibles, il sait que nous sommes avec des limites, il sait que nous, voilà, il le sait. Mais quand nos vies sont dans sa main, eh bien, il y a la force de Dieu qui agit en nous. Souvenons-nous d'Élie, c'est un homme de Dieu remarquable, et pourtant, il a été à un moment complètement découragé, il a failli, il a fui devant Jézabel, il a même désiré la mort, et pourtant, c'était un homme de Dieu, mais la Bible nous dit que Dieu ne l'a pas laissé sous le genêt, il ne l'a pas laissé avec ses pensées négatives, il est venu le visiter par un ange, il l'a bousculé, il lui a donné la nourriture nécessaire, et Élie a pu marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Ça vient de Dieu. Quand Dieu vient fortifier, alors il y a sa grâce qui nous poursuit. Et je terminerai ces quelques versets que nous avons lus. Il est dit qu'il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Chaque bénédiction qui allait descendre sur Gad sera aussi également une bénédiction pour le peuple, pour tout le peuple d'Israël. Chaque bénédiction que nous recevons de la part de Dieu, bien sûr, elle est d'abord pour nous, mais elle n'est pas seulement. Ce sera aussi une richesse pour l'Église. Quand nous recevons de Dieu, nous sommes en bénédiction aussi pour l'Église. Un témoignage, une prière par la foi, une intercession, etc., un don spirituel, une révélation, ce sera en bénédiction pour l'Église. Nous recevons de Dieu par la foi et nous sommes bénis nous-mêmes, mais c'est aussi une bénédiction pour l'Église. Parce que, eh bien, nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous avons, nous dit la parole de Dieu, le même Seigneur, la même foi, la même espérance, le même esprit, le même Père, etc. Et nous sommes dépendants les uns des autres. Gad, eh bien, sera mis au large. Gad sera dans sa demeure comme une lionne. Gad, eh bien, prendra les prémices du pays. Et il sera aussi comme un conducteur pour éclairer, pour conduire, un conducteur puissant, sans oublier qu'il appartient au peuple d'Israël. Gad appartient au peuple d'Israël, il fait partie de ce peuple, il y a une bénédiction particulière sur lui, mais cette bénédiction, il va la retransmettre, ses ordonnances envers Israël. Il n'oublie pas, eh bien, qu'il fait partie d'un peuple, il n'oublie pas, eh bien, que Dieu a sauvé tout ce peuple, et il n'oubliera pas que sa bénédiction, c'est aussi la bénédiction d'Israël, et c'est aussi la bénédiction de Dieu. Ce qu'il recevra de Dieu, eh bien, glorifiera encore l'Éternel. Que nous soyons les uns et les autres en bénédiction, les uns pour les autres, avec nos faiblesses, avec nos manquements, mais quand la grâce de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient, nous recevons de lui ce dont nous avons besoin au moment précis. Et vous savez que Dieu a aussi une parole prophétique pour nous. Pour l'avenir, il s'en occupe. Dieu s'occupe. Il nous voit dans l'instant T, mais Dieu voit aussi ce qu'il va faire, Dieu voit aussi son plan, il connaît toutes choses, et il nous donne aujourd'hui ce dont nous avons besoin, mais il nous conduit aussi, et il nous donnera ce dont nous aurons besoin. S'il tarde, dans les années à venir, il nous communiquera ce dont nous avons besoin. C'est un Dieu extraordinaire. Lui n'est pas limité dans le temps, il n'est pas soumis au temps, mais Dieu, eh bien, veut nous bénir ce soir, mais il veut aussi que cette bénédiction, elle s'étende jusque dans l'avenir. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la parole. Merci pour ces hommes de Dieu qui nous ont précédés. Tu nous dis non pas d'imiter leur vie, mais d'imiter leur foi. Seigneur, merci pour Moïse, homme de Dieu. Merci parce qu'il a accompli l'œuvre avec ton aide et ton secours, Seigneur. Combien de découragements, mais tu l'as relevé pour qu'il soit un instrument entre tes mains pour le peuple de Dieu. Et merci parce qu'il les a conduits jusqu'aux portes du pays promis, Seigneur. Merci de nous aider également à accomplir l'œuvre que tu nous as appelé à faire jusqu'au moment opportun. C'est toi qui conduis toutes choses, Seigneur. Merci de bénir l'Église, de bénir mes frères et sœurs. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.